Vous écoutez France Culture.
Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Josiane Savigno, qui publie Point de côté, chez Stock. Est-ce ce qui me pousse à raconter cette aventure, le refus d'être un dommage collatéral, une victime atteinte par mégarde, peut-être, tout en sachant désormais qu'il n'y a rien à faire pour combattre la malveillance, qu'on parle ou qu'on se taise, on est perdant. Voilà un livre, Josiane Savigno, écrit sous la pression de la nécessité, donc auquel vous avez été contrainte, pour reprendre une célèbre définition, donc un livre d'écrivain. Et pourtant, vous ne vous définissez pas comme écrivain, mais comme journaliste. Hein. Vous le dites dans le livre lui-même, avoir écrit deux biographies, l'une sur Marguerite Yourcenar, l'autre sur Carson McCullers, ne fait pas de vous un écrivain.
Mais oui, parce que je pense vraiment, c'est pas forcément une question, je sais pas, de modestie ou une idée de qualité, mais j'ai toujours eu le sentiment que en France, comme tout le monde se rêve écrivain, on se proclame écrivain très vite, et en particulier par rapport au journalisme, il m'a toujours semblé que la temporalité de l'écrivain et le rapport au monde de l'écrivain étaient des rapports totalement inverses à celui du journalisme. Et donc je pense que il y a des écrivains dont je pense qu'ils sont vraiment écrivains, qui sont dans ça, et je n'aime pas forcément leurs livres, je les trouve pas forcément bons. En revanche, il y a des gens non écrivains, journalistes comme moi, dont je trouve les livres excellents, mais il me semble que ça procède pas tout à fait de la même chose, du même moteur.
Mmh. Vous dites même que vous jugiez à un moment déplacé que des journalistes puissent écrire des livres.
Oui, mais vous avez connu ça. Enfin, il y a une éditrice qui est morte maintenant, mais qui était célèbre, qui était Françoise Verny, et qui avait cette manie de vouloir absolument faire écrire des journalistes en pensant, vous savez, qu'il y avait tout un réseau, c'est-à-dire vos copains vont écrire sur vous, et je trouve que c'était quand même un petit peu malsain. J'ai bien aimé Françoise Verny, j'ai beaucoup aimé certains côtés de Françoise Verny, mais je ne pense pas que ce côté-là
elle est là,
soit le meilleur.
Elle est présente dans Point de côté.
Oui, je ne pense pas que ce côté-là soit la meilleure pour la littérature.
Mais vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, tout de même, les journalistes dominent largement le terrain?
Vous croyez? Attendez, je ne sais pas, les livres que j'ai bien aimé à cette rentrée, Hélène Lenoir, elle n'est pas journaliste. Jean-Marie Blas de Robles, il n'est pas journaliste. Qu'est-ce qui est Christian Auster, il n'est pas journaliste. Jean Echelos, il n'est pas journaliste.
Décidément, ce sont les meilleurs que vous avez aimés, alors. Mais est-ce que vous pensez que le public les aime?
Mais j'espère quand même.
Les vrais écrivains.
Je ne sais pas, moi, je dis toujours que des écrivains qui sont assez accomplis et qui ont fait leur œuvre, et je me dis qu'ils ont un vrai public peut-être de 20 000 personnes, et puis qu'au-delà, c'est toujours un peu sur un malentendu, une circonstance, etc. Mais quand même, oui, le public, c'est compliqué, l'histoire du public. Mais Est-ce que James Joyce avait un très grand public? Je ne sais pas.
Est-ce qu'aujourd'hui, on publierait, on continuerait à publier James Joyce?
Je m'inquiète là-dessus. Je m'inquiète. J'espère que oui, quand même. J'espère que oui. Mais c'est vrai que pour reprendre quelqu'un que j'ai cité tout à l'heure, qui vient d'avoir le prix Médicis, Jean-Marie Blas de Robles, je sais qu'il a été refusé par beaucoup d'éditeurs, notamment son éditeur qui l'avait publié jusque-là, Le Seuil, ce qui est quand même un petit peu préoccupant, oui. Mmh.
Alors donc, le livre qui paraît, Point de côté, ne change rien au débat que nous venons d'entrouvrir entre le journaliste et l'écrivain. Pour vous, vous êtes toujours journaliste.
Ah oui, je ne suis pas écrivain, je ne saurais pas écrire de roman, et puis je pense que je ne suis pas écrivain. Mmh. Comme vous dites, j'ai écrit Steve, je ne sais pas si j'ai été poussée par la nécessité ou poussée par Jean-Marc Roberts, qui depuis des années me combattait mon refus d'écrire à la première personne et qui me disait, avant même qu'il m'arrive un incident, ce qu'il a appelé point de côté, c'est ça, c'est lui qui a trouvé le titre, qui me disait, mais enfin, je ne te comprends pas. Bien sûr que tu n'es pas écrivain, tu veux pas, tu revendiques pas du tout ça, tu ne cherches pas à être écrivain. Cela dit, tu aimes bien faire des portraits, tu as rencontré des tas de gens dans ton métier, et pourquoi ne pas faire partager ça? Et je disais, mais non, d'abord, ça n'intéresse personne, et puis ensuite, je ne saurais pas faire. Et puis, quand j'ai eu ce petit souci, ou un truc extrêmement banal, on m'a mise au placard, ça arrive à tout le monde, je pense, parmi les gens qui nous écoutent, il y en a beaucoup à qui c'est arrivé. Jean-Marc Roberts, ça fait partie des gens qui ont été très... qui m'ont beaucoup soutenu, encouragé à ne pas me déprimer de cette situation. Il m'a dit quand même, ce serait peut-être bien que tu... Alors ce qui était drôle, c'est qu'il m'a dit, ce serait peut-être bien que tu essaies de comprendre ce qui t'est arrivé et que tu le racontes. Et au fond, une fois que j'ai accepté de l'écrire, je me suis aperçue que ce qui me restait de ce métier, c'était plutôt des bonheurs que cet incident un peu désagréable.
Oui, mais vous êtes parti de l'incident désagréable pour, chemin faisant, prendre le chemin du récit, raconter votre vie en faisant des confidences.
Ouais, très peu quand même. C'est pas je dis toujours, c'est pas mes mémoires. Quand je ferai mes mémoires, ce sera peut-être un peu plus poivré.
Parce qu'il y a des choses que vous nous cachez.
Dans mon journal, il s'est passé beaucoup de choses. J'en parle très peu de mon journal.
C'est pas une confession non plus, ce livre.
Pas vraiment, non. Non, non.
Il y a des choses que vous n'osez pas avouer.
Avouer, je ne sais pas, mais il y a des choses... vous savez, quand des gens qui vivent avec des artistes, avec des cinéastes, avec des écrivains, se plaignent, comme on l'a vu dans des années récentes, que des écrivains ou des cinéastes aient utilisé leur propre vie pour faire leurs œuvres d'art, moi, je leur dis toujours, mais vous avez pris vos risques. Quand on vit avec un artiste, on prend ses risques. Mais moi, je ne suis pas une artiste et les gens qui partagent ma vie n'ont pas pris leurs risques.
Là, vous dites que vous n'osez pas vous avouer à vous-même pourquoi vous avez finalement tenté ce récit. Et en tentant ce récit, vous contredisez tout un principe de vie et de travail.
Oui, jamais dire je. Dans les articles, quand j'ai formé des gens à ce métier, je traquais même le nous. Vous savez, ces gens qui disent nous. Un grand écrivain de nos rêves, je disais les rêves de qui, où nous invite. Ah non, c'est vrai que... Mais vous avez raison de souligner ça, parce que je l'ai fait et j'ai toujours du mal à considérer que je l'ai fait. Alors on m'avait dit, tu verras quand le livre va arriver, le livre c'est un objet, il est fini, tu auras vraiment conscience que tu l'as fait. C'est toujours pas si clair.
Mmh. Quel rapport vous avez avec ce livre aujourd'hui?
Un rapport d'un certain détachement. Il y a une chose très drôle, j'ai fait un débat dans une librairie à Paris, Les Cahiers de Colette, et avec Bernard Comment, qui est éditeur au Seuil. Et Bernard Comment a lu le début d'un article de Jacques Henrique dans Art Press, un article très, très sympathique. Et Jacques Henrique commençait par « Faut-il remercier cet homme qu'il a un jour convoqué dans son bureau pour lui dire tu es désavoué de ton... Tu n'occupes plus ton poste ?» Parce que finalement, s'il n'y avait pas eu cet homme, elle n'aurait jamais écrit ce livre. Et Bernard Comment m'a dit « À brûle pour point, est-ce que vous préférez ne pas l'avoir écrit ?» Et j'ai répondu oui.
Mais chez vous, il n'y a pas de trace de volonté de régler des comptes, de...
J'ai pas le sentiment,
de se venger.
Vous avez eu ce sentiment?
Ah, moi, je ne sais pas.
Moi, j'ai pas eu ce sentiment du tout. Non, régler des comptes, d'abord, je donne même pas les noms. Régler des comptes avec moi-même, peut-être, je sais pas. Mais régler des comptes... Non, c'est pas très intéressant de régler des comptes, franchement. Non, c'est un incident désagréable qui est d'une grande banalité. C'est une grande banalité. Ça m'a amené à parler avec des gens à qui c'était arrivé. Parce que, vous savez, la placardisation, le harcèlement moral, on lit des livres dessus, on voit des reportages à la télévision, et puis on se dit, oh, c'est terrible ce qui arrive à ces gens, mais moi, ça ne m'arrivera pas. On se sent complètement exempt de ça. Et puis, je me suis aperçue, et après, j'en ai parlé avec d'autres gens qui avaient subi ça, c'est que très vite, on se sent coupable. On se dit... Au fond, dans un premier temps, on se dit, mais pourquoi on me fait ça? D'abord, on ne me dit même pas que c'est parce que je travaille mal. On me donne un argument totalement étrange. Puis ensuite, on se dit, si, j'y suis pour quelque chose. Il y a une culpabilité quelque part. Mmh.
Donc là, le livre, c'est un refus. Refus de cette situation, refus de cette injustice, refus d'être détruite.
Oui, refus d'être coupable, oui. Refus d'être coupable, et puis... C'est vrai que ça avait un aspect gag quand même, parce que la phrase qu'on a employée pour me dire que je ne pouvais plus faire le travail que je faisais, c'était « la calomnie s'est imposée, il faut tourner la page ». Donc déjà, je crois que je n'ai pas vu l'humour qu'il y avait à dire à un journaliste littéraire « il faut tourner la page ». L'humour ne m'est pas apparu. Et cette fameuse histoire de calomnie, moi je ne parlais pas vraiment de calomnie à l'époque, je parlais d'attaque, parce que bon... Vous le savez très bien, on le sait très bien, ce milieu littéraire dans lequel on vit, il y a beaucoup d'ego, beaucoup d'orgueil. Et puis, bon, il se trouve que le monde des livres que je dirigeais, c'était un endroit un peu stratégique, donc c'était normal de... Puis à partir du moment où on affirme des convictions, on déplaît, vous le savez bien. Donc c'était un peu normal qu'il y ait des gens qui soient un peu énervés. Puis alors, la première personne qui m'avait attaqué, c'était quand même, j'allais dire, un expert en la matière, Jean-Yves Dernalier. Je n'étais qu'une de ses nombreuses victimes. C'était un très grand calomniateur en chef, ou attaquant en chef. Mais là, mon journal avait été absolument solidaire de moi.
C'était quoi cette calomnie qui s'est imposée?
C'est la deuxième, c'est celle de... Parce que Jean-Yves Dernalier, il ne cherchait pas l'assentiment social, vous l'avez connu, il cherchait à provoquer, à faire parler de lui, à se mettre en avant. Mais après, sont venues des personnes qui cherchaient à dire qu'ils étaient dans le bien et que moi, je serais dans le mal. Et puis il y a eu cette fameuse histoire. Il se trouve que Philippe Soler s'écrivait dans Le Monde chaque mois. Et là, j'aime pas trop mettre en avant ce genre de choses, mais je crois que le fait d'être une femme joue, c'est-à-dire qu'une femme est forcément manipulée par un homme. Il se trouve que, par exemple, Philippe Soler, maintenant, écrit exactement le même article qu'il écrivait dans Le Monde chaque mois, dans Le Nouvel Observateur chaque mois. Je n'ai entendu personne dire que Jérôme Garcin était manipulé par Philippe Soler. Donc il y avait ça, et on prétendait que c'était lui qui dirigeait Le Monde des livres, alors qu'il n'y mettait absolument jamais les pieds. Alors, au début, ça m'a un peu fait rire, d'une part parce que Philippe Soler, c'était une admiration de ma jeunesse, donc je pensais que j'étais pas soupçonnée d'avoir voulu qu'il écrive dans Le Monde parce que je prenais un verre avec lui de temps en temps. Et puis ensuite, ça m'a paru absurde parce que j'essayais de dire aux gens que, et certaines personnes de bonne foi l'admettaient, que toute personne qui a lu 15 pages de Philippe Soler sait que 95% de ce qu'on défendait dans Le Monde des livres, ça lui est à peu près indifférent. Il restait les choses qu'il avait envie de défendre. Et en plus, on avait posé des règles très claires. C'était qu'il parlait du patrimoine. Il ne parlait pas pour éviter qu'il y ait un de ses amis qui lui téléphone pour lui dire « Dis donc, ce serait bien que tu fasses un papier sur moi dans Le Monde ». Et d'ailleurs, je pense que c'était intéressant parce que il me semble qu'il avait trouvé une manière non muséale de parler du patrimoine littéraire, de ce qu'on appelle l'histoire littéraire, et de faire que ces écrivains de montrer que ces écrivains du passé sont soi-disant du passé, sont toujours actuels, nous parlent, que Voltaire nous parle autant que Jean-Paul Sartre, et je trouve que c'était bien ce qu'il faisait. Mmh.
Ce que votre livre montre, Josiane Savigno, c'est la force d'une phrase, tout de même, hein, puisque tout est parti d'une phrase, que vous n'avez pas oubliée, que vous n'êtes...
Mais c'est une phrase tellement absurde, parce que comment une calomnie pourrait s'imposer? Si c'est de la calomnie, elle ne peut pas s'être imposée, ou alors c'est pas de la calomnie, il y avait une vérité qu'on aurait dû me démontrer.
Et vous n'avez pas cherché à avoir la démonstration?
J'ai dit, est-ce qu'on pourrait m'expliquer? Non, tu comprends, c'est trop compliqué, la calomnie s'est imposée, il faut tourner la page. Puis je pense qu'on n'était quand même pas obligé de me mettre dans un bureau où on ne pouvait pas s'asseoir à deux, c'est pas indispensable.
C'est un homme qui vous a lancé cette phrase.
Oui.
Avec du haut de son pouvoir tout neuf.
Tout neuf, oui. Qui n'a pas duré très longtemps d'ailleurs.
Et vous êtes resté sans voix.
Ah oui, complètement. Pourtant, d'habitude, on me crédite peut-être trop d'une certaine violence ou d'un sens de la répartie. Mais là, je dois avouer que ça m'a. Calomnie s'est imposée, il faut tourner la page. Je suis restée sans voix. Je me suis dit, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait là ?
En tout cas, on ne dirige plus le service libre.
Voilà, mais c'est ça, c'était la suite.
Mais dans le journalisme, les postes, ça va, ça vient. Peut-être que le service libre...
Ouais, mais moi j'étais pas, j'avais pas envie de rester chef du Monde des Livres jusqu'à 90 ans. Mais je pensais que la chose légitime, c'était ce qui m'était arrivé à moi avec François Bott, qui est quelqu'un à qui je rends hommage parce que ça a été quelqu'un d'extraordinaire qui apprenait à ne pas être un petit chef, justement. Et François Bott m'avait formé et m'avait préparé sa succession. Et moi, j'avais bien l'intention de préparer ma succession. Mmh. Je pense qu'il faut voir aussi la situation du moment. Tout ça a été lié. C'était quelques semaines après la démission d'Edoui Plenel de son poste de directeur de la rédaction. Je pense qu'avec Edoui Plenel, on était tout à fait d'accord. J'étais même déjà en train de partir vers autre chose, mais pas dans ces conditions-là.
Et vous ne craignez pas qu'un livre comme celui-ci fasse peur à ces hommes qui, périodiquement, sont investis d'un pouvoir tout neuf ?
Je crois qu'ils n'ont jamais peur. Vous croyez qu'ils ont peur ?
Ben, je ne sais pas.
Quand on a peur, on fait
peur. Se retrouver dans un livre, ça peut ne pas faire plaisir.
Vous croyez ? Je ne sais pas. Je ne vais pas envoyer le livre, de toute façon.
Les livres ne sont pas clandestins ?
Oui, enfin, écoutez, il tient peu de place dans le livre. Le livre parle de tout à fait autre chose, de choses plus agréables, non ?
C'est-à-dire de votre vie.
Oui, puis d'un métier que j'aime, qui m'a permis de rencontrer des gens extraordinaires. Et finalement, ce journal dans lequel je suis encore, Le Monde, je l'aime. Et il m'a permis toujours de faire des choses qui m'ont vraiment plu tout le temps. Et là encore récemment, je suis allée à New York voir un écrivain qui va être traduit bientôt, qui s'appelle Joseph O'Neill et qui est très intéressant. Et puis voir Philippe Gourevitch qui a fait ce livre sur Abu Ghraib, qui malheureusement n'est pas traduit en français. Donc j'aime toujours ce métier. J'ai rencontré des gens extraordinaires et parfois je me suis même liée à ces gens-là. Donc je regrette rien.
Malgré le harcèlement.
C'était une période déplaisante, quoi. Franchement, un bureau où on ne peut pas s'asseoir à deux, ce n'est pas agréable quand même. Ça a duré quelques mois.
Vous racontez ça avec un côté un peu burlesque.
Ça avait un côté gag quand même. C'est-à-dire que j'ai des amis dans ce journal, heureusement, et tous mes amis trouvaient que c'était un peu pénible. Et donc, ils sont arrivés un jour en disant, si on faisait le coup de la cabine des Marx Brothers, si on essayait de s'entasser dans ce bureau à plusieurs. Et puis, ils avaient le sentiment que j'étais un peu transformée en dame pipi, parce qu'on avait été obligé de démonter la porte et je donnais sur un couloir. Donc, ça avait un aspect gag. Mais ça a duré un peu trop longtemps, mais bon. Après, on m'a donné un très beau bureau.
En même temps, vous dites que longtemps, vous avez eu tendance à vous voir comme une personne déplacée. Et donc, c'était peut-être normal qu'on vous donne un bureau où vous n'aviez pas votre place.
Mais ce qui est curieux, justement, c'est que quand je vous disais, j'avais dirigé le Monde des Livres pendant un certain temps, je pensais qu'il fallait préparer ma succession et faire autre chose. Donc, je me sentais plus tellement comme une personne déplacée. Il me semblait que j'avais fait mon parcours, fait mon travail à la tête du Monde des Livres, que maintenant, j'allais passer la main à quelqu'un. Et je me sentais plutôt... Et là, on m'a rappelé à l'ordre un peu brutalement.
On ne vous a pas épargné.
Bon, je ne sais pas si on ne m'a pas épargné. On n'a peut-être pas cherché. On m'a rappelé à l'ordre. On m'a expliqué que ça n'allait pas.
Finalement, on ne se refait pas, Josiane Savigno. Et enfant, vous le racontez dans votre livre « Point de côté » qui est publié chez Stock, vous avez toujours été frondeuse et obstinée. Et adulte, c'est la même chose, avec la révolte en plus.
J'ai quand même tendance à croire que les gens ne changent pas et que tout le monde souvent a envie de changer quelqu'un. Ça m'a toujours paru bizarre. Je pense qu'on fait des accommodements quand même de surface, mais je crois que profondément... On reste ce qu'on est. C'est vrai que je suis assez obstinée et que moi, j'ai pas très bon caractère, je pense. Ouais. Je sais pas ce que c'est un bon caractère, mais j'aime pas tellement qu'on me marche sur les pieds. Là, on les a écrasés un peu violemment.
Et surtout, la société n'aime pas beaucoup les gens qu'on ne peut pas identifier, classer.
Oui, alors ça c'est très facilement. C'est ça qui m'est apparu. C'est-à-dire que c'était dans la première salve de la calomnie de Jean Edernelier, donc il avait fait enquêter sur sur mon enfance. Et il y avait tout un processus de dévalorisation sociale. Bon, c'est vrai que ma mère avait une épicerie, j'en ai absolument pas honte. Par exemple, mon père travaillait dans une entreprise de champagne. Alors, si j'en ai dernier, ça devenait son père représentant en mousseux pour banquet de province. Donc, il y avait toute une espèce de tendance à la dévalorisation sociale. Et puis, il y avait donc l'origine sociale, les mœurs, l'odeur. Il disait que je sentais très, très mauvais. Et c'est vrai que très vite, ça, je l'ai compris, même dans mon journal et dans la société, dans le milieu littéraire, on aime bien que les gens soient identifiés, savoir avec qui ils vivent, s'ils ont des histoires avec des hommes ou des femmes, si par hasard ils ont des histoires avec des femmes, ce qu'on soupçonnait que j'avais été, au moins il aurait fallu qu'il y en ait une qui soit là à demeure et qu'on sache qui elle était. On savait pas trop. Moi, j'aime pas tellement que ma vie privée empiète sur le social. J'ai toujours l'impression que c'est un peu destructeur, le regard social sur les amours. Je crois que je préfère les amours clandestines. Et je pense que ça n'est pas très bien vu, tout ça. Mmh. Ça n'est pas très, très bien vu.
Et pour aggraver votre cas, vous avez, au Monde des Livres, toujours défendu des auteurs qui suscitent la polémique.
Ben oui, c'est manque de bol. Hein, ça, franchement, c'est vrai qu'il se trouve que j'aime bien Christine Angot. Par exemple, je comprends tout à fait qu'on n'aime pas l'œuvre d'un écrivain. Je comprends tout à fait qu'on n'aime pas Christine Angot. Mais cette espèce de pogrom dont elle a été victime cette année, ces injures a priori, presque sans avoir lu le livre, par exemple, dans un hebdomadaire que je trouve un hebdomadaire sérieux, lire une phrase comme « Le comité de défense du trou de Christine peut retourner dormir sur ses deux testicules », je vois vraiment pas l'intérêt. Ça, je trouve ça franchement, je dois avouer, je suis pas très choquée par beaucoup de choses, mais ça me choque. Ça me choque qu'a priori, je pense qu'on peut très bien dire qu'on n'aime pas un livre, qu'on n'aime pas une œuvre, qu'on n'aime pas un écrivain ou qu'elle est un mauvais écrivain. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des gens dont je considérais que c'était des écrivains qui sont mauvais. Je pense que Christine Angot a un rapport très physique, très pulsionnel à l'écrit, à la littérature. On le voit quand elle lit ses livres. On ne peut pas dire que ce n'est pas un écrivain, mais on peut dire que c'est un écrivain qu'on n'aime pas du tout. Mais pourquoi cette injure, je sais que dans Chronicarte, il y avait autofiction intestinale. Enfin, ça, vraiment, ça me dérange. Mmh. Et du coup, ça me donne encore plus envie de les défendre, ces gens-là, c'est vrai.
Alors, il y a Angot, il y a Houellebecq.
Oui, il y a Houellebecq, oui. Houellebecq, je suis en désaccord, j'allais dire idéologique avec tout ce qu'il dit, mais je pense que c'est un écrivain intéressant. Mmh.
Est-ce que ce n'est pas finalement le fait que vous aimiez des écrivains intéressants qui vous rend suspecte?
Peut-être que j'ai défendu des gens qui ne sont pas aussi polémiques. Ah, mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce que la première salve de Jean et Dernalier avait été doublée par un grand numéro dans la revue Esprit, où Jean-Philippe Domecq s'était fait passer sous pseudo pour un lecteur du Monde qui était scandalisé par ce que je faisais, qui expliquait que j'étais une femme sous influence, déjà. Et alors, il y avait une chose très, très drôle, c'est qu'il avait deux cibles. C'était Philippe Solers et Michel Rieu, que je défendais beaucoup aussi. Autant Philippe Solers, depuis des années, a été quelqu'un qui a suscité lui aussi la polémique, autant Michel Rieu, je ne vois pas pourquoi tout d'un coup j'étais attaquée pour avoir défendu Michel Rieu, qui est en effet un écrivain que j'ai trouvé très, très intéressant, que je trouve toujours intéressant. Je sais qu'il va publier bientôt un nouveau livre, j'en suis ravie. Mais je me disais, pourquoi Michel Rieu est embarqué dans cette galère, le pauvre ?
Est-ce que vous ne pensez pas que vous auriez mieux maîtrisé la situation si vous aviez eu la prudence de vous faire analyser ?
Ah, mais ça, on me l'a beaucoup dit. Je vois que vous avez lu ce livre. Mes amis disent que j'ai analysé, disent que j'ai inconscient qui ruisselle du béret. Mais je me souviens que dans les années 70, vous savez, quand c'était un peu la mode, entre guillemets. D'ailleurs, Christine Angot stigmatise très bien dans son dernier livre un homme avec lequel elle a une histoire et qui lui dit que, alors qu'elle, bon, elle considère qu'elle a été vraiment sauvée par la psychanalyse, qu'elle avait tout essayé, les médicaments, l'acupuncture, tout, elle était mal dans sa vie, elle n'arrivait pas à vivre avec ce qui lui était arrivé, cette histoire avec son père. Et la psychanalyse, c'était ce qui lui a permis quand même d'écrire, d'avoir une vie sociale. Et cet homme lui dit « Ah, moi, ça m'aurait beaucoup plu comme expérience. » Et alors, elle le stigmatise. Et justement, dans les années 70, il y avait beaucoup de gens qui faisaient ça en disant « c'est une expérience intellectuelle ». Et je me souviens que j'avais discuté un jour avec quelqu'un, une femme qui était analysée, qui d'ailleurs voulait devenir analyste, et qui m'avait dit « c'est détestable comme comportement, il faut faire une analyse si on souffre. L'analyse, c'est une réponse à une souffrance. » Et moi, je me disais, finalement, mes petites névroses, je ne vis pas trop mal avec, je les prends avec humour, je ne souffre pas, donc je n'ai pas besoin d'être analysée. Peut-être je me trompais.
C'est ça, votre malheur, c'est que vous étiez douée pour le bonheur.
Oui, j'ai trop lu Simone de Beauvoir, voilà.
Ça a été la première grande rencontre quand vous étiez toute jeune, 14 ans, au collège.
Bah oui, je pense que sans elle, je ne serais pas face à vous aujourd'hui. Vraiment, ça a été quelque chose d'extraordinaire, ma lecture de Simone de Beauvoir. C'est que j'aimais bien lire, mais pour la première fois, j'ai lu quelqu'un, quand j'ai lu les mémoires d'une jeune fille rangée, qui me disait qu'il n'y avait pas de fatalité à reproduire quelque chose, qu'on pouvait essayer d'inventer sa liberté, qu'on pouvait essayer de s'inventer soi-même. C'est pour ça que je le dis dans le livre, j'ai mal compris quand, pour le centenaire de Simone de Beauvoir, Annie Ernaux a dit, en lisant Simone de Beauvoir, je me suis aperçue qu'on n'était pas du même monde. Parce que vous voyez, entre moi, dans mon petit lycée de province, et Simone Bertrand de Beauvoir, une femme de l'aristocratie parisienne, il n'y avait pas beaucoup de points communs. Sauf que, pour moi, ce qu'elle expliquait, c'était quel que soit le milieu dans lequel on est, il faut s'en arracher pour essayer de se penser soi-même. Et je pense qu'elle, c'était pas évident pour elle non plus qu'elle soit philosophe. Elle aurait pu faire des thés d'après-midi et de la broderie.
Donc elle s'invite là, au commencement de votre histoire, Simone de Beauvoir.
Elle s'impose même.
Mais vous n'avez pas pour autant l'idée d'en faire une mère. Hein. Vous dites peut-être une grande sœur incestueuse.
Oui, mais ce qui m'a surtout choquée, c'était au moment de la mort de Simone de Beauvoir. C'était ça, notre mère à toutes, etc. Et ça, c'est... Non, je ne pense pas que c'était quelqu'un qui suscitait le sentiment filial, puisque au contraire, elle expliquait qu'il fallait se détacher de tout un tas de... un tas de contraintes pour essayer de conquérir une liberté. Donc l'idée qu'on aurait été toutes, que toutes les femmes qui, comme moi, pouvaient se revendiquer d'avoir été formées par Simone de Beauvoir auraient été des filles, ça me séduisait pas du tout. Oui, une grande sœur peut-être, une grande sœur formatrice, un peu incestueuse peut-être, parce que je sais pas, elle était très séduisante, Simone de Beauvoir.
Il y a un autre grand modèle, une autre grande rencontre dans votre vie et dans votre livre. C'est Marguerite Yourcenar. Marguerite Yourcenar, qui justement, j'ai lu remarquer, ne vous prenait pas vraiment pour une journaliste.
Ah non, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, parce que vous savez qu'elle avait quand même une certaine réticence à l'égard des journalistes, et donc un jour elle m'a invitée chez elle à Petite Plaisance pour un week-end, et je me suis retrouvée un matin dans son jardin. Et elle m'a dit cette phrase qui m'a vraiment émue. Elle m'a dit, vous savez, j'espère que vous savez que vous êtes ici bien que journaliste et non parce que journaliste. Là, pour une fois, j'ai pensé que c'était plutôt un compliment de me dire que j'étais là parce qu'elle me trouvait une personne agréable.
Mmh. Vous alliez voir Yourcenar alors que autour de vous, on préférait Julien Gracq.
Mais c'est très bizarre cette histoire. C'est que moi, vous savez que quand je faisais cette biographie de Marguerite Yourcenar, un jour on m'a dit est-ce que vous considérez que c'est le plus grand écrivain du XXe siècle ? J'ai répondu non. Et alors. J'étais face à une table de gens scandalisés. C'est comment on peut faire une biographie de quelqu'un en pensant qu'il n'est pas le plus grand écrivain du XXe siècle? Non, Marguerite Yourcenar, je pense que c'est pas Marcel Proust, je pense que c'est pas Louis-Ferdinand Céline. C'est une œuvre, moi, qui m'intéresse beaucoup, et c'est une œuvre assez close. Qui a voulu se détacher du siècle, justement se détacher des recherches narratives du siècle qui restaient un peu tout à fait en dehors. Et quelque chose m'énervait, c'était que moi je considère que Julien Gracq et Marguerite Yourcenar, ce sont deux œuvres importantes, mais pas tout à fait en haut de l'affiche du XXe siècle. Et je voyais tout autour de moi, notamment des journalistes, Julien Gracq, le dernier grand écrivain vivant, alors que Claude Simon, pour qui j'ai une admiration folle, était encore vivant. Et Marguerite Yourcenar, c'est rien du tout. Elle écrit comme on traduit des versions latines. Je trouvais ça très choquant. Mais j'ai pas du tout de mépris pour Julien Gracq. En lisant, en écrivant, c'est un livre que j'aime beaucoup. En revanche, Le Rivage des Sirtes, que j'ai adoré quand j'étais beaucoup plus jeune, je l'ai relu il y a quelques années, ça m'a pas autant bouleversée.
Il s'en est fallu d'un rien que vous ne soyez pas responsable du monde des livres et même journaliste littéraire, parce que ce n'est pas du tout par là que vous avez commencé.
Mais non, c'est pour ça qu'il y a un chapitre dans mon livre qui s'appelle « La bonne étoile » de Jean Genet. C'est une histoire assez drôle, parce que donc je suis arrivée au Monde, et vous savez que très souvent quand on débute dans les journaux, dans la presse écrite, on va dans le service qui s'appelait autrefois les informations générales, police, justice, etc., et puis reportage de société, et puis vous êtes un peu utilisé comme un vivier pour certains reportages, pas les reportages au long cours qui sont faits par les grands reporters chics. Donc j'ai débuté là, et puis Vous connaissez l'histoire du Monde, et je crois que nos auditeurs connaissent beaucoup l'histoire du Monde. C'est ce journal qui...
La face
qui...
cachée du Monde.
Mais pas la face cachée, qui nous a fait tellement de mal, ne dites pas ça. Mais la face ouverte du Monde, qui est de se remettre en question tout le temps, d'élire son directeur. De... Et donc, comme peu après mon arrivée, en 1978, Jacques Fauvet sollicitait le renouvellement de son mandat. Donc, grand-messe, comme d'habitude. Moi, petite souris devant tous ces Raymond Barillon, Pierre Vianson-Ponté. Donc, vous imaginez des gens qui avaient une surface énorme à l'époque. Je n'aurais jamais osé prendre la parole. Je vois un homme qui prend la parole et qui était contre Jacques Fauvet, évidemment, et qui dit à la fin de son discours que la chose la plus scandaleuse qu'avait faite Jacques Fauvet récemment, c'était de publier un article de Jean Genet à la Une du Monde qui était assez favorable à la fraction armée rouge, disons la bande Abadère. Et je me dis, non, mais c'est pas possible. Comment on peut reprocher à quelqu'un de publier un article d'un grand écrivain? Mais c'est impossible. Donc, je pensais que la salle allait hurler. Silence. Et demande la parole un homme assez maigre, chauve, et on dit la parole est à François Botte. Et François Botte dit écoutez, moi je voudrais simplement dire que quand on publie à longueur de colonne des textes d'hommes politiques à la pensée médiocre et au style plus médiocre encore, on peut publier une fois de temps en temps un article d'un grand écrivain, fût-il injuste politiquement. Ah, je me dis, cet homme, je voudrais l'embrasser. Et donc, quand la réunion s'est arrêtée, je suis allée le voir, et c'est comme ça qu'on a nouer connaissance. Et en plus, c'est quelqu'un qui s'intéressait beaucoup aux faits divers et à la justice. Et moi, j'étais à la justice à l'époque. Et quand Jacqueline Piatier, qui avait créé Le Monde des Livres, a pris sa retraite et que François Botte lui a succédé, il m'a demandé si je voulais venir.
Mais vous aviez déjà une certaine affinité avec les livres.
Ah oui.
Pas seulement ceux de Simone de Beauvoir.
Non, mais j'avais fait des études de lettres, mais du temps où je ne savais pas encore trop si j'allais réussir à faire du journalisme. Et donc, finalement, c'était étrange parce que j'ai convoqué mes amis pour leur demander ce que je devais faire. Et certains me disaient, mais non, et toi, si tu n'as pas vu les dépêches à 6h30 du matin, tu es déprimé. Donc, comment veux-tu aller dans un hebdomadaire? Et d'autres me disaient au contraire, mais non, tu devrais, puisque ça te permettrait à la fois d'être journaliste et de renouer avec une partie de ta vie avec laquelle tu as un peu rompu. Mmh.
Alors, ce point de côté, c'est plutôt du bon côté, à mon avis, qu'il se manifeste, Josiane Savigno, car il vous a permis d'abord d'écrire un livre qui est une biographie, une autobiographie, et pas une biographie seulement. Et puis, il vous a révélé, c'est ce que le livre montre, tout ce qu'il y a d'enfoui dans ces humiliations de votre enfance, tout ce que vous avez vécu, du mauvais côté du pont.
C'est ce que vous dites par rapport à Nelly, c'est-à-dire que vraiment, ça, j'avais trop vécu sans me retourner. Et justement, quand j'ai décidé d'essayer d'écrire ça, je suis tombée un jour sur cette phrase de Beckett qui dit qu'il faut s'occuper de son passé, sinon c'est le passé qui s'occupe de nous sérieusement. Et je crois qu'il avait raison et que peut-être j'avais pas assez fait le point à chaque étape d'un certain nombre de choses.
Et vous n'aviez pas d'attirance pour la psychanalyse, comme vous l'avez dit, mais un certain goût pour les indices, les intrigues policières qui permettent de dénouer les écheveaux.
Oui, j'aime bien les détails.
C'est ce qui vous pousse à écrire.
Oui, sans doute. Et c'est ce que je déplore souvent dans une certaine tendance du journalisme aujourd'hui. J'allais dire, j'ai été formée au vieux monde. Non, qu'il y ait eu un âge d'or du monde quand les gens racontent avant. Non, il n'y a pas d'âge d'or. Mais je pense que les journaux se discréditent sur des détails. Que quand vous êtes compétent dans un domaine et que vous lisez quelque chose de très faux sur ce domaine, vous vous dites, mais alors, ce journal me dit des choses fausses sur tout le reste.
Oui.
Donc les détails, c'est important.
Et les signaux.
Et les signaux aussi, oui.
Écoutez son père, par exemple.
Quel père ?
Ce que vous n'avez pas fait. Lorsque vous lui avez fait part de votre désir de devenir journaliste.
Mais ce n'était pas mon père. Mon père, il ne m'a jamais tellement brimé. Au contraire, il m'a plutôt accompagné parce que c'est un homme que j'ai toujours vu un journal à la main, donc il y avait presque une légitimité. Mais c'est un faux père, j'allais dire, un conseiller d'orientation qui m'a expliqué que c'était hors de question, que j'étais une femme, j'étais provinciale, j'étais pas née dans la bourgeoisie, mes parents n'avaient pas de relation, c'était hors de question. Et puis il y a aussi un journaliste du Figaro, que je ne nommerai pas, dont les parents habitaient Poitiers, qui m'a dit la même chose. Une femme provinciale, nanana. Donc en même temps, c'était pas non plus un sacerdoce. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, tous ces gens m'agacent, je vais essayer. Puis, si j'y arrive pas, je ferai autre chose. Il y a des tas de choses à faire dans la vie, quand même. C'est pas le journalisme, c'est pas. Et puis, en plus, il y a aussi des endroits où on voudrait pas être.
Oui, mais tous ces conseillers de mauvais augure ne vous laissaient apparemment aucune chance.
Non, mais justement, à chaque fois que je vais dans des classes, je raconte cette histoire qui m'est arrivée et les gamins sont très, très contents. Parce que donc, ce conseiller d'orientation, je venais d'entrer au monde. Et justement, comme je vous disais, aux informations générales, on était un peu réservoir de reporters. Donc, on me dit, à l'époque, Michel Crépeau était député et maire de La Rochelle, me dit, il y a une femme qui se présente à la députation contre Michel Crépeau, il faut que tu ailles voir, pour la droite. Donc, j'arrive, et c'est une femme très sympathique, qui était directrice d'un lycée hôtelier. Donc, après l'entretien, elle me dit, est-ce que ça vous ennuierait qu'on aille déjeuner à la cantine? Ce sont les élèves qui font la cuisine. Alors, je lui dis, très bien. Et je vois une table avec que des hommes. Le conseiller d'orientation. Donc, je fonce. Je lui dis, vous vous souvenez hein? En plus, comme on avait habité dans le même immeuble, il se souvenait de moi. Il m'avait quand même vu dans les escaliers. Et je lui dis, vous savez, oui, je sais que vous êtes journaliste au Monde. Je lui dis, vous voyez. Et cet homme me répond, mais avouez que statistiquement, vous n'aviez aucune chance. Et je lui dis, mais non, on ne fait pas le destin des gens avec des statistiques.
Mmh. Aujourd'hui, vous pensez qu'il n'avait pas un peu raison?
Que statistiquement, j'avais aucune chance, ben, je ne sais pas, la preuve que non.
En tout cas...
C'est quoi les statistiques?
Ben, c'est les...
Que Barack Obama n'avait aucune chance de devenir président des États-Unis.
Ce n'est pas ce qu'on disait. La trajectoire que vous racontez dans le livre montre que toujours, depuis Châtellerault, en passant par Poitiers, vous avez été de l'avant.
Oui, trop peut-être, c'est ça. Je ne suis pas assez retournée, oui, c'est ce que vous disiez. L'analyse, ça permet de s'arrêter au moins, de regarder un peu dans le rétroviseur.
Mais maintenant, devant vous, qu'est-ce qu'il y a?
Ben, je ne sais pas, il y a du journalisme, des livres peut-être. Pas des romans.
Pourquoi pas des romans?
Parce que je ne saurais pas faire. Les romans, c'est quand même réservé aux écrivains. Je ne saurais pas faire. Vous savez faire, moi pas.
Oh, écrire un roman, quand même. Quand on peut écrire un article de journal, on est capable d'écrire un roman.
Vous croyez?
Ouais.
Bon, il faut que j'en écrive un et que je vous le montre, alors. Je suis pas sûre. Franchement, je suis pas sûre. Et je vois pas pourquoi... Non, je sais pas, j'ai trop de... Il y a trop de romans que j'aime. Vous savez, c'est... Tout à l'heure, j'en parlais encore avec quelqu'un. Cette manie qu'on a de dire que ce qui se publie n'est pas bien, il se publie pas. Moi, à cette rentrée, je trouve qu'il y a des tas de livres dont malheureusement les journaux n'ont pas eu le temps de parler et qui étaient très très bien. J'ai lu beaucoup de livres bien et certains qui n'ont évidemment pas eu de visibilité. Et ça c'est ça la chose triste. Et quand on fait ce métier, c'est ça la chose frustrante. Moi, c'est pour ça que je suis pas une fanatique des critiques de démolition, parce que je pense qu'on a déjà pas la place de donner envie de lire des livres qui sont bien, et que en plus quand même c'est tellement cruel que des gens ont passé 2 ans de leur vie à écrire quelque chose et il n'y a aucun retour public. À quoi bon perdre son temps à dire qu'on n'aime pas tel livre?
Ça vous fait souffrir, ça, ce genre de...
Quand je dirigeais ce Monde des livres, ce qui me faisait le plus déplaisir, c'était que je crois que très vite, quand on est dans une équipe qui est à peu près homogène comme la nôtre, ou qui avait à la fois des sensibilités différentes, mais quand même qui avait un certain accord sur la qualité des choses, il y avait toujours quelqu'un qui vraiment aimait quelque chose. Et on disait, bon, ça, on va le défendre. Et puis, il y avait aussi presque nous tous qui disaient, bon, ça, c'est... Ça a peut-être un intérêt, mais c'est pas pour le Monde des livres, c'est pas pour notre cahier. Donc ça, c'était les deux piles claires, j'allais dire. Puis tout au milieu, il y avait tout un tas de livres dont tout le monde disait oui, ça c'est pas mal, ce serait bien d'en parler. Et puis vous connaissez ça, c'est pareil pour vous, quoi. Au fil du temps, il y a des choses qui descendent dans le tas de sable. Et puis quand on range sa bibliothèque, on se dit mais ce livre-là, c'est quand même vraiment vraiment injuste de pas en avoir parlé.
Tous ces livres dont on ne parle pas. Ça nous fait oublier les livres dont on parle.
Oh non. Vous oubliez les livres dont vous parlez? Non.
Pas tous.
Non. Ça nous est arrivé quelquefois, ça nous amuse parfois au monde, mais c'est souvent pour des gens, vous savez, qui pendant très très longtemps n'ont plus écrit. C'est-à-dire, on dit, mais qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a traité, ce livre-là? Alors, moi, je dis, je ne sais pas, à Patrick Kechichan, je lui dis, c'est toi. Il me répond, non, ça doit être toi. Et puis, on regarde, et souvent, c'est une troisième personne, peut-être. Ou alors, c'est un de nous deux et on se dit « aïe, 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 mais comment ai-je pu oublier que j'avais parlé de ce livre ?»
Point de côté, le livre de Josiane Savigno est publié chez Stock. Du jour au lendemain, Michel Mestre, Anne Franchini, Didier Pinault, Alain Weinstein, bonsoir.